Radio Okapi.
Radio Okapi.
Droit et citoyenneté.
Droit
et citoyenneté.
Le monitoring de la situation des droits de l'homme dans l'est de la RDC avec la CNDH, la Commission nationale des droits de l'homme. Quelle est la situation de ces droits humains? Comment cette institution recense les violations des droits humains dans cette partie sous occupation? Et quel type de violations recense-t-elle? Selon le président de cette institution d'appui à la démocratie, un desk chargé de recueillir des plaintes sur les violations des droits de l'homme est ouvert à son office pour que ces violations ne restent pas impunies. Pour nous rendre compte de la manière dont la CNDH se prépare à faire réprimer les violations graves des droits de l'homme dans la partie est de la RDC, nous recevons à ce sujet le président de cette commission, Olusapu Mukulu. Excellente écoute à tous. Pour quel monitoring faites-vous de la situation des droits de l'homme dans l'Est?
C'est vrai que nous avons des défenseurs des droits de l'homme, non seulement ceux qui sont au service de la Commission nationale des droits de l'homme, dans nos bureaux de représentation, mais qui sont dans d'autres sphères où nous avons établi une stratégie de collaboration, de travail en synergie, puisqu'après tout, la CNDH, comme vous savez, c'est la seule institution publique des droits de l'homme, pour ainsi dire une institution d'appui à la démocratie dont le rôle est celui de promouvoir et protéger les droits de l'homme, comme partout ailleurs il y a des institutions publiques qui suivent les situations de chaque pays et qui rendent compte aux instances non seulement nationales mais aussi aux instances internationales, puisque l'ONU a prévu pour chaque membre la création, indépendamment du système, dans chaque pays, d'une institution comme la nôtre. Et donc, c'est une institution qui travaille beaucoup plus avec les défenseurs des droits de l'homme et les autres acteurs des forces vives sociales du pays. Et donc, la situation de l'Est est une situation difficile depuis de longues années et qui culmine avec ce que tout le monde a rapporté, dénoncé et même condamné, l'invasion, si vous voulez, d'un pays voisin, le Rwanda. Il y a ce que nous déplorons actuellement, des violations massives des droits de l'homme, des massacres de la population, atteintes à la vie, au mouvement, aux libertés fondamentales, et même à une catastrophe, si vous voulez, humanitaire, avec tout ce que cela comporte, notamment les déplacements forcés et aujourd'hui l'enrôlement forcé des enfants. Nous avons tous ces acteurs de la société civile et ceux de la CNDH pratiquement qui travaillent difficilement puisqu'ils ne peuvent pas se rendre à leurs offices, à leurs bureaux pour y travailler tranquillement et mener des actions de monitoring habituellement autorisées et dans leur déploiement. Et il n'y a pas seulement que ces acteurs de la société civile, ces représentants de la CNDH dans le nord et sud Kivu, et disons, il y a aussi des institutions publiques et même les institutions qui représentent la MONUSCO qui sont en difficulté de faire leur travail à cause de cette situation déplorable pour laquelle nous devons consolider nos rapports actuellement et enfin le publier aussi et les envoyer à qui de droit. Voilà la situation générale. Donc nous avons des personnes qui continuent dans des conditions difficiles à faire le monitoring de toutes ces situations, mais en même temps nous veillons à ce qu'ils soient protégés, qu'ils se protègent eux-mêmes, et nous avons d'autres sources de renseignements aussi à travers ceux qui sont dans les provinces voisines, qui ont réussi à y aller, y arriver, et continuent à faire ce monitoring à distance.
Vous venez de clôturer l'atelier stratégique de la CNDH sur la contribution des institutions nationales des droits de l'homme, de la SADC et de l'EAC pour la paix dans l'est du pays. À quoi a servi concrètement cet atelier? Quelles sont les résolutions qui ont été prises?
Eh bien, je vous dirais qu'il y a eu beaucoup de résolutions de plus stratégiques et d'autres que nous avons annoncées. Pourquoi cet atelier en quelque sorte? C'est sur demande des institutions nationales de droits de l'homme, des institutions sœurs à la CNDH de la RDC, pour venir évaluer avec nous la situation qui prévaut dans la partie est de notre pays. Et nous avons trouvé l'idée géniale, il venait en même temps communier, compatir avec les populations civiles victimes dans l'est du pays. Et en même temps, s'informer réellement du côté de Kinshasa, ce qui s'est passé à travers la société civile congolaise et à travers la CNDH. Voilà les objectifs en quelque sorte de cette rencontre, cet atelier stratégique de 2 jours que nous avons passé ici à Kinshasa, avec des collègues qui représentent pratiquement leurs institutions nationales de droits de l'homme. Comme nous, il y a eu le Zimbabwe, le représentant du Burundi, de la Zambie, du Kenya, et même Madagascar et d'autres qui étaient branchés, qui suivaient en ligne, puisque, comme on les dit souvent, il faut battre les fers quand il est chaud. Et donc, ils sont venus et nous avons ensemble mis en place un plan opérationnel de mobilisation. C'est ce qui ressort. Mobilisation et occupation du terrain au niveau national et au niveau régional, sous-régional en Afrique et pourquoi pas ailleurs. C'est ça le sens de notre déploiement avec l'appui, bien sûr, de ces institutions sœurs. Et ce qui est sorti en termes de recommandations qui ont été publiées, puisque je vous ai dit qu'il y a d'autres recommandations beaucoup plus stratégiques.
Les recommandations qui feront tache d'huile, comme vous l'aviez
annoncé. Absolument, absolument, puisque les défenseurs des droits de l'homme qui sont dans la CNDH ont pris la décision d'être partout où l'on parle de la RDC par rapport à cette situation de violation massive des droits de l'homme. Nous avons, entre autres, pris la recommandation de collaborer étroitement avec les organisations de la société civile de la RDC, toutes tendances confondues. Nous avons pris comme recommandation la cessation immédiate des hostilités. Puisque ces hostilités, quand les éléphants se battent, l'herbe en pâtit, c'est-à-dire des violations des droits de l'homme, sont notées comme je venais de les dire. Nous avons une troisième recommandation, c'est celle de soutenir, non plutôt, les soutiens des INDH, de la SADC et de l'EAC aux efforts du processus de retour, vous l'avez annoncé dans votre question, du retour de la paix dans la partie est de la République démocratique du Congo. Nous avons également prévu toute une panoplie d'actions de lobbying et de plaidoyer au niveau, à tous les niveaux, national, au niveau sous-régional, régional et international. C'est ce que nous avons obtenu comme résultat.
Parce que chaque citoyen a des droits et devoirs. Radio Okapi offre un espace pour la promotion des valeurs de la démocratie et du respect de l'autre. Élections, droits de l'homme, droits civiques et politiques, nous en parlons dans votre magazine. Mieux connaître vos droits pour bien défendre, mieux connaître vos devoirs pour bien les accomplir. Retrouvez Jeff Ngoyi tout le mardi
Paul Zapou. Dans la plupart des cas, certaines associations, des institutions organisent des ateliers, des tables rondes, juste pour justifier certains fonds reçus des bailleurs. Point très. On sort de ces ateliers, on a pris des résolutions, des recommandations, on ne sait pas quoi en faire. Et celles-ci souffrent d'exécution sur le terrain. Quelle garantie vous donnez que tout ce que vous venez de dire ne va pas souffrir d'exécution?
Oui, la garantie est là. Nous, les INDH, on agit. On bouge, on fait bouger les décisions à prendre. Ce que peut-être beaucoup ignorent, le succès diplomatique que certains présentent, un travail de fond a été fait. Et moi, personnellement, connaissant bien ce qui se passe à Genève, à New York, j'étais dans le couloir, dans les enceintes, avant et même après le passage des officiels. Notre discours, on les connaît et il porte des fruits, puisque nous avons dit Genève. Le narratif n'est pas sur les effets des négociations politiques qui sont de la compétence d'un autre organe de l'ONU, le Conseil de sécurité à New York. Et tout le temps, je me suis rendu à Genève pour dire, il faut un bon narratif, un bon discours. Quand le haut commissaire aux droits de l'homme des Nations Unies, Monsieur Volker Türk, est arrivé ici pour sa première visite, il y a quelques mois, nous lui avons gentiment dit, il faut un discours adapté et qui condamne les violations des droits de l'homme et aller même loin. Et on a vu, lors des dernières rencontres, il a été à la hauteur, à la satisfaction des activistes des droits de l'homme jusqu'à nous faire obtenir la mise en place d'une mission d'experts qui pourront enquêter sur tout ce qui s'est passé, qu'est-ce qui se passe à l'est du pays. Et donc ce travail a été fait par des activistes de la société civile, par des activistes du Conseil national, de notre Commission nationale des droits de l'homme, la CNS, que je dirige. Et donc, nous sommes plus des hommes de terrain que des hommes de bureau, etc. Peut-être par absence de moyens de médiatisation, on pense que ce que nous avons pris comme engagement ne l'est que sur papier, etc. Et donc, pour nous, nous sommes debout et nous l'avons dit et nous le faisons. Vous verrez d'autres actions qui sont entendues par les instances, même judiciaires, au niveau national, international. Pour cela, nous avons pris des décisions qui sont déjà opérationnelles, qui s'exécutent déjà au niveau de la CNDH, notamment l'ouverture, si vous voulez, les fonctionnements d'un desk qui reçoit les plaintes, les preuves des différentes parties, les associations des droits de l'homme et tout ça, les victimes, afin de documenter tout ce qu'il y a à documenter en matière de droits de l'homme. Voilà un peu des choses beaucoup plus pratiques. Et vous nous verrez au four et au moulin pour ça aussi, et pour faire avancer dans le sens de lutter contre l'impunité. Et cette fois-ci, puisque ce qui s'est passé ou ce qui se passe à l'est du pays dépasse tout l'entendement et dérange tous les progrès qui ont été engrangés depuis la Société des Nations jusqu'au format actuel de l'ONU. Voilà pourquoi vous avez des activistes qui ont fait leurs preuves ici au Congo, à l'époque de Félix Floribert Chebeya, et à l'extérieur du pays, vous le savez bien, et aujourd'hui nous reprenons notre bâton, si vous voulez, de pèlerin, pour agir sur ce terrain de promotion et protection des droits de l'homme.
Le procureur de la CPI que vous avez reçu, je crois,
oui,
a lancé un appel à témoins sur des enquêtes concernant les violations graves des droits de l'homme dans l'Est de la RDC. Quel est l'apport de la CNDH à ces enquêtes?
Eh bien, c'était clair. Pour des raisons stratégiques, je ne vous en dirai pas long. Aujourd'hui, le procureur Kahn arrive, que je connais très bien, compte sur la CNDH pour le travail de documentation. C'est dont il a besoin, et parce que même la consolidation de ce qu'il a, il a déjà beaucoup d'informations. Et pour cela, nous avons pris la résolution d'accompagner dans la documentation son travail. Et nous le faisons déjà sur le front judiciaire.
On attend palper du doigt les fruits de votre combat diplomatique que vous menez dans le silence.
Merci beaucoup.
Puisque vous êtes aussi une institution qui est chargée de conseiller les autorités congolaises en matière de droits de l'homme. Qu'est-ce qu'il faut faire pour rétablir l'autorité de l'État, récupérer des terres conquises par l'ennemi, au lieu d'accuser chaque fois, de dénoncer, de condamner?
Vous savez une chose, nous venons de loin, les gens ne s'en rendent pas compte. D'autres allaient parler à la place des Congolais sur l'échelle internationale, les scènes, les forats au niveau extérieur qui prenaient des décisions alors que les Congolais étaient absents. Mais aujourd'hui, nous constatons que la stratégie de celui qui est là, Félix Antoine Tshisekedi, qui représente le pays, sa stratégie commence à donner des fruits. La stratégie, c'était quoi ? comprendre, approcher ce que l'on cite qui sont la base de cette triste situation, tragédie, l'horreur que nous vivons à l'est du pays, notamment dans le nord et sud Kivu. Sa stratégie, c'est approcher ce pays-là, et essayer de discuter et finalement une politique de démystification d'une politique qui avait été mise en place pour placer le pays sous une sous un carré, sous une coupe réglée, afin d'exploiter les potentialités de notre pays à vil prix, presque gratuitement. Je ne vais pas dire les statistiques en matière de cobalt et tout ça, alors que le Rwanda n'a pas un seul grain de cobalt, par exemple, et d'autres minéraux dans son sous-sol. Voyez, mais pourtant, les chiffres indiquent que c'était le pays qui est au top dans l'exploitation de ces minéraux prisés dans la technologie actuellement. Alors, cela a abouti, je me répète, à une politique de démystification, par exemple, du président rwandais, et qui est malheureusement devrait tirer les leçons des génocides qu'il y a eu de ce côté-là. Mais traverser comme ça, attaquer avec les forces de défense rwandaises, des populations civiles, vraiment, c'est du scandale. Et aujourd'hui, dans tous les rapports, on pointe du doigt le Rwanda. Donc ça ne nous étonne pas, c'est un résultat. Mais avant, c'était difficile que les gens ouvrent même leur bouche, passez-moi les mots, puisque je suis défenseur des droits de l'homme, pour pointer réellement du doigt les auteurs et les co-auteurs de cette coupe réglée dans laquelle les populations civiles ne retrouvent pas leur intérêt pour le développement de ce pays. Et donc, ce que nous conseillons au gouvernement, c'est d'aller plus loin après les victoires engrangées sur le plan diplomatique. Il faut agir de l'intérieur pour avoir des services performants, une armée performante républicaine. Nous, défenseurs des droits de l'homme, nous avions, à un moment donné, dénoncé le fait que le dernier mandat du président qui était sorti a été couvert de minage du terrain. Et d'ailleurs, quelque part, il avait dit ce n'est qu'un au revoir. Un au revoir, mais puisque le terrain était déjà miné. Voyez les effectifs au niveau de l'armée, au niveau des services, qui on a placé, qui il avait placé en ce moment-là, au-delà du fait de décentraliser le pays en autant de provinces qui ne sont même pas viables à un certain moment. Nous avions crié, moi j'ai crié que c'était dangereux, le terrain était miné. Et le fait de saboter les dernières élections, de ne pas y prendre part, et de faire beaucoup d'actions pour que ces élections ne réussissent pas, a été un signe qui nous a démontré que voilà, il y a autre chose qui se prépare. Aujourd'hui, voyez, les élections se sont passées tant bien que mal, à un certain niveau, mais aujourd'hui, le prétexte, c'est non, il faut conquérir des terres et des terrains pour obliger Kinshasa d'aller au dialogue. Les dialogues, le perpétuel recommencement avec la répartition de ministères, de portefeuilles, avec tout ce qu'on pourrait encore infiltrer dans le système, le service et même l'armée. Vous voyez l'éternel recommencement. Et aujourd'hui, on a compris qui est derrière les M23, ex-CNDP et autres, etc. On a compris.
Mais cela fait 6 ans que ce monsieur-là n'est plus au pouvoir. Il y a un nouveau régime. Ceux qui lui ont succédé, pourquoi peinent-ils? Qu'est-ce qu'ils attendent pour nettoyer cette armée qui est infiltrée?
Il fallait avoir des arguments, puisqu'en ce moment-là, on allait difficilement faire comprendre à la communauté internationale qu'est-ce qui se passe réellement et aux populations. Alors, une telle question, vous pouvez la lui poser. Pourquoi? Puisqu'il est le seul à estimer qu'il a maintenant le véritable impérium du pouvoir à un certain moment, puisqu'il avait trouvé une armée, je vous ai dit, minée. Il y a eu James Kabarebe, chef d'état-major dans un pays comme le nôtre. Vous le savez, on oublie tant cela. Et aujourd'hui, c'est le même Kabarebe qui traverse, qui fait traverser, qui conseille militairement nos amis qui se présentent comme étant des opposants, etc. Et aujourd'hui, le prétexte que voilà, il y a toujours les FDLR, etc., autant d'années après. Pourtant, ils ont, si vous voulez, les Rwandais à gérer, et d'autres pays ont géré pratiquement l'est du pays. Et les gens avaient même refusé d'être mités dans les autres provinces un peu éloignées de la frontière. Ils ont gardé tout ça. Et aujourd'hui, ça devient très clair comme une eau de la source, comme une eau de fontaine, que voilà qu'est-ce qui s'est passé, hein, qu'est-ce qui s'est passé pendant autant d'années, une trentaine d'années, et qu'est-ce qui se passe actuellement. Voilà, et je crois que la question serait bien posée aux autorités et au chef de l'État, si c'est possible, posez-lui la question. Il vous dira pourquoi, 6 ans après, il a attendu, etc., et pour extirper, nettoyer l'armée.
À l'époque, le cardinal Ambongo, il avait évoqué tout ce que vous êtes en train d'évoquer là. Il avait recommandé de revoir la chaîne de commandement au sein de l'armée. Il avait dénoncé cette infiltration. Avez-vous l'impression que nous avons affaire à des autorités qui enregistrent ce que les autres disent, mais pour ne rien en faire?
Non, je pense que le problème se pose. Quand vous ne démystifiez pas à temps une dictature et que vous vous dites acteur politique, et donc vous êtes obligé de subir. Et là, je crois que le président Félix Antoine Tshisekedi s'est lancé dans une politique de démystification. Il a tendu le bras, en même temps, il a compris que le moment est arrivé pour démystifier. Évidemment, il ne faut pas, pendant que vous donnez des conseils, vous donner aussi l'impression de soutenir l'insoutenable.
Voilà, c'est par ici que nous concluons cette thématique relative à la situation des droits de l'homme au nord et sud de Kivu avec Paul Nsapu, président de la CNDH. Merci de votre écoute et bonne suite de nos programmes sur la fréquence de la paix.
Radio Okapi.
Radio Okapi.
Droit et citoyenneté.
Droit
et citoyenneté.